de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Macron ordonne la mise en quarantaine nationale de la COVID-19. Les cas de COVID sont élevés, la Pologne a du mal à réduire le fardeau des hôpitaux. Le Japon recevra le premier envoi de vaccins AstraZeneca des États-Unis. Les autorités australiennes lèvent le confinement de Brisbane dès que les cas de COVID-19 chutent. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président de la France, Emmanuel Macron, ordonne la troisième quarantaine nationale de COVID-19. Macron, dans un discours diffusé à la télévision nationale jeudi, a déclaré que les écoles seraient fermées pendant 3 semaines pour freiner la propagation du virus corona afin que les hôpitaux français ne soient pas submergés de patients. Le nombre de décès liés à la COVID-19 en France est de près de 100 000 personnes. La salle d'urgence fait également face à un afflux de patients et le programme de vaccination est plus lent que prévu. Macron a été contraint d'abandonner son projet de garder la France ouverte afin de protéger l'économie du pays. La Pologne tente de réduire le fardeau des hôpitaux dans l'une des régions les plus durement touchées mercredi. Cette condition a été signalée lorsque les décès liés à COVID ont atteint un record cette année. Les services de santé polonais sont en grave difficulté parce que le nombre de cas a augmenté en raison de la propagation de la variante très contagieuse du coronavirus qui a été identifiée pour la première fois en Grande-Bretagne. Il a été signalé que certaines zones manquaient de ventilateurs. Les données du ministère de la Santé ont montré que lundi, un ventilateur était disponible en Silésie, une zone industrielle du sud comptant environ 4,5 millions d'habitants. Le ministre de la Santé, Adam Niedzielski, a déclaré que 150 jusqu'à 170 patients atteints de COVID-19 de Silésie seraient transférés dans d'autres régions ce week-end, avec des avions médicaux en attente 24 heures sur 24 pour les aider. La situation en Silésie était très difficile. À ce moment-là, c'est le temps que le problème d'une région ne puisse être résolu uniquement dans cette région. De 3 000 jusqu'à 4 000 lits supplémentaires seront fournis dans toute la Pologne à la fin de la semaine. La Pologne a signalé 653 décès mercredi, le nombre le plus élevé en 2021 et 32 874 nouveaux cas. La première expédition de vaccin COVID-19 AstraZeneca pour le Japon proviendra d'une usine aux États-Unis, comme la société l'a rapporté dans une interview accédée au journal Asahi. La société a l'intention d'emporter des vaccins purs d'Europe jusqu'à la mise en œuvre des contrôles à l'exportation dans ce pays, a déclaré le responsable des vaccins AstraZeneca au Japon, Tomo Tanaka, dans une interview publiée jeudi. Les approvisionnements en vaccins se déplaceront progressivement vers les vaccins fabriqués au niveau national par les entreprises japonaises après l'approbation réglementaire prévue en mai. Tanaka a refusé de dire combien de doses il a actuellement. Daiichi Sankyo a déclaré que le mois dernier qu'elle avait commencé la production de vaccins AstraZeneca au Japon. Le gouvernement japonais s'est arrangé pour acheter 120 millions de doses de vaccins, assez pour 60 millions de personnes. La plupart des doses seront faites par Daiichi Sankyo, Pharma et d'autres partenaires locaux. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Les autorités australiennes mettront fin au confinement de Brisbane en tant que troisième plus grande ville du pays jeudi, après avoir signalé un seul cas de nouveau coronavirus dans l'État de Queensland. Ces conditions réduisent les craintes d'une épidémie généralisée. La chef du gouvernement de Queensland, Anastasia Palaszczuk, a déclaré que le confinement de 3 jours à Brisbane se terminerait à midi, heure locale, mais que les citoyens seraient toujours tenus de porter des masques en public et que certaines restrictions de distanciation sociale resteraient en place. Le Queensland est généralement une destination populaire pour les touristes nationaux pendant les vacances de Pâques et les vacances scolaires suivantes à travers le pays. À plus grande échelle, les rassemblements à domicile à travers l'État resteront limités. L'Australie a largement limité la propagation du coronavirus par la fermeture des frontières, une série de confinements soudains et des systèmes de suivi rapide. Le pays a signalé environ 22 000 cas, donc 909 décès depuis le début de la pandémie, bien moins que la plupart des autres pays développés. Le Vietnam, jeudi, reçut 8-11 000 doses de vaccin COVID-19 de AstraZeneca, qui est la première expédition dans le cadre du programme mondial de partage de vaccins COVAX. Auparavant, les livraisons sont suspendues d'une semaine en raison de approvisionnement limité. Le Vietnam, qui a lancé son programme de vaccination contre le coronavirus le mois dernier, cible un total de 30 millions de doses de vaccins via l'installation COVAX. La livraison de jeudi pèse à ce jour le nombre de vaccins AstraZeneca du Vietnam à près de 930 000 doses. Le Vietnam souhaite diversifier son approvisionnement en vaccins à partir d'une plus grande variété de sources, y compris Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac de Chine et Sputnik de Russie. L'Indonésie et la Suède conviennent de renforcer la coopération économique, d'accroître les échanges et les investissements bilatéraux. Cela a été révélé lors de la discussion principale lors de la récente réunion de l'ambassadeur d'Indonésie auprès du Royaume de Suède et de la République de Lettonie, Kama Pradipta Isnomo, et de la ministre suédoise des Affaires étrangères, Anna Lindh, récemment. Kama Pradipta Isnomo, dans une déclaration officielle jeudi, a déclaré qu'une coopération accrue dans divers domaines faisait suite à la réunion du président de la République d'Indonésie et du premier ministre suédois en novembre de l'année dernière. Il a déclaré qu'il y avait de nombreuses possibilités d'accroître les investissements et le commerce bilatéraux entre les deux pays. Comme indiqué dans une discussion entre le président de la République d'Indonésie et le premier ministre suédois en novembre de l'année dernière, l'Indonésie doit intensifier sa coopération afin de réaliser pleinement son potentiel existant. Entre-temps, le ministre suédois des Affaires étrangères, Ann Linde, a apprécié les bonnes relations entre les deux pays et a souligné l'importance de maintenir la coopération tout en déclarant qu'il était important de poursuivre la coopération sur les questions multilatérales. La valeur des exportations de charbon de Bengkulu a augmenté pour atteindre 10 millions de dollars américains. La valeur des exportations de charbon du port de Pulau Bai à Bengkulu en février 2021 a été enregistrée à 10 millions de dollars américains et est devenu le plus grand contributeur aux exportations de cette région. Le chef du bureau central des statistiques de la province de Bengkulu, Win Rizal, a déclaré jeudi à Bengkulu que la valeur des exportations avait augmenté par rapport à janvier, qui avait été enregistré environ 8,3 millions de dollars. Il a souligné que ce charbon est le plus grand produit d'exportation du port de Pulau Bai à Bengkulu et que son rôle dans la valeur des exportations atteint 100%. Cette augmentation s'est produite en ligne avec le développement économique mondial qui se remet actuellement de l'impact de la pandémie COVID-19 qui dure pendant un an. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers amis de l'antenne, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « Des bâtiments dans la mer de Chine méridionale ». L'armée philippine a documenté la présence de structures qu'ils disent illégales sur les Union Banks dans les îles Spratly, dans la mer de Chine méridionale, non loin de l'endroit où des centaines de navires chinois ont essaimé le mois dernier. Le commandant militaire philippin, le lieutenant général Cyrilite Sobiana, a déclaré que les bâtiments étaient illégaux et n'étaient pas loin des îles que les Philippines affirment incluses dans leur zone économique exclusive. Cela crée bien sûr de nouveaux problèmes dans les zones contestées de mer de Chine méridionale. Pendant ce temps, d'autres problèmes n'ont pas été complètement résolus. La Chine et plusieurs pays d'Asie du Sud-Est semblent être pris dans un différend sur leurs revendications expansionnistes respectives sur les risques en énergie de la mer de Chine méridionale. La Chine borde même la région avec ses 9 lignes pointillées imaginaires. En outre, le gouvernement chinois a également adopté la loi sur la gestion maritime de la Chine en février dernier. Il a déclaré que la loi vise à sauvegarder la souveraineté nationale, la sécurité et les droits maritimes du pays. On dit que sa garde côtière est autorisée à prendre tous les moyens nécessaires, y compris l'utilisation d'armes pour arrêter ou empêcher les menaces des navires étrangers. En fait, le personnel de la garde côtière chinoise sera autorisé à monter à bord et à inspecter les navires étrangers opérant dans les eaux considérées comme relevant de la compétence de la Chine. Ce thème, en fait, est encore ambigu car il couvre des domaines qui sont également revendiqués par d'autres pays. Tant que cette règle est toujours appliquée par la Chine, la possibilité d'un conflit houleux dans la mer de Chine méridionale reste très ouverte. Afin de parvenir à la paix dans la région de la mer de Chine méridionale, toutes les parties concernées devraient déployer des efforts globaux et un dialogue entre les pays afin d'éviter les conflits ouverts impliquant des forces militaires et de les empêcher de se propager ailleurs. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir, chers amis. Merci d'être fidèles à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 2 avril 1967 est la journée internationale du livre pour enfants. La journée internationale du livre pour enfants est fixée en 1967 par l'Organisation internationale à but non lucratif en Suisse. Le 2 avril, jour de l'anniversaire de Hans Christian Andersen, est célébrée la Journée internationale du livre pour enfants, qui a pour but d'inciter à l'amour de la lecture et d'attirer l'attention sur les livres pour enfants. La Journée internationale du livre pour enfants est célébrée avec diverses activités telles que concours d'écriture et la remise des prix.
Thank you.
Le 2 avril 1982, les troupes argentines occupent les îles Malouines. Le 2 avril 1982, les troupes argentines occupent l'île Falkland, plus connue sous le nom l'île Malouine dans la région sud-est du pays. L'île de Malvinas a été découverte en 1832 par les Britanniques et devenue l'une des colonies britanniques. L'Argentine affirme toujours que la Malouine font partie du territoire du pays. Pour cette raison, l'Argentine envahit l'île de Malvinas en 1982. Cette action de l'Argentine n'a pas été acceptée par la Grande-Bretagne. L'armée royale britannique a ensuite été envoyée dans la région et il y a eu une bataille entre eux. La sophistication de l'armée britannique a finalement conduit l'armée du pays à la victoire et a chassé l'armée argentine des Malouines. Bien que l'Argentine ait perdu militairement, les Buenos Aires ont pris encore des mesures diplomatiques pour devenir propriétaire de l'île. Le 2 avril, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. La journée mondiale de sensibilisation à l'autisme est établie par les Nations Unies depuis 2007. Elle est un moment pour sensibiliser et engager la communauté mondiale à soutenir les personnes atteintes d'autisme et à lutter contre la discrimination. La Journée mondiale de sensibilisation de l'autisme a eu lieu chaque année depuis le 9 septembre 1989. Sa détermination est basée sur la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU et la Journée mondiale de l'autisme qui est fixé le 18 décembre 2007, est basé sur la proposition des représentants de l'État du Qatar et soutenu par tous les États membres. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Just tell me.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie et pour le titre, l'Indonésie et le Japon conviennent de renforcer la coopération dans divers secteurs. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a rencontré le ministre japonais de l'autonomisation de l'appareil d'État, Kono Taro, mardi le 30 mars. Lors d'une conférence de presse virtuelle après la réunion, Retno Marsudi a déclaré qu'ils avaient fait de comparer des notes ou échanger des opinions sur la situation dans la gestion de la pandémie de COVID-19 dans les deux pays et dans le monde, y compris le programme de vaccination. Retno Marsudi a déclaré que l'Indonésie et le Japon avaient convenu que la vaccination était l'un des efforts de la communauté mondiale pour sortir de la pandémie de COVID-19. Cependant, dans sa mise en œuvre, les défis du programme de vaccination sont encore très grands. Par conséquent, une coopération est nécessaire, en particulier pour parvenir à un accès égal aux vaccins pour tous les pays. Les deux pays ont convenu de continuer à soutenir les vaccins multilatéraux et à soutenir le travail de l'installation COVAX. En outre, Retno Marsudi a noté plusieurs développements dans le suivi du protocole d'accord dans le secteur de la santé. Entre autres, la collaboration de recherche sur le développement et la fabrication de vaccins entre l'Institut de technologie de Bandung, ITB, et l'Université d'Osaka. Cela comprend la coopération sur l'équipement médical, qui est une subvention japonaise, dont une voiture à rayon X. Le Japon a également soutenu le développement de la chaîne du froid pour les vaccins d'une valeur de 41 millions de dollars américains pour les pays d'Asie-Pacifique, y compris l'Indonésie. Outre la coopération en matière de fabrication de vaccins COVID-19, les gouvernements indonésiens et japonais collaboreront pour restaurer l'économie battue par la pandémie, notamment en soutenant une chaîne d'approvisionnement progressive. Cela a été discuté par Retno Marsudi lors de sa rencontre bilatérale avec le ministre japonais des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu. À cette occasion, le ministre Toshimitsu a déclaré que le Japon avait accordé une aide aux entreprises japonaises pour augmenter leur base de production. Motegi a également déclaré l'intention du Japon de continuer à contribuer à la création d'emplois et au développement des ressources humaines en Indonésie. Motegi Toshimitsu a également mentionné la possibilité d'accorder un prêt d'environ 70 milliards de yens ou environ 9,2 billions de rupiah pour le port maritime de Patimban à Java Occidental. Cela faisait partie d'un effort visant à accroître la connectivité grâce à la coopération en matière d'infrastructure dans le but de réaliser le concept de coopération Indo-Pacifique libre et ouverte. En réponse à cela, la ministre Retno Marsudi a remercié la coopération offerte par le Japon et a déclaré son intention de renforcer la coopération dans le domaine des infrastructures avec le Japon. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Ta pernah ku ragu dan selalu ku ingat kelingan matamu dan sentuhan hangat. Ku saat itu takut mencari makna, tumbuhkan rasa yang sesakan dada. Kau datang dan pergi, oh begitu saja. Semua ku terima apa adanya. Mata terpejam dan hati menggumam di ruang rindu kita bertemu. Boku wa karappo de kimi ni fureru, kokoro ga futo atatakaku naru. Boku wa te o tsunaku, toki wa tomanatsu, subete o soto oshinagashita. Kita bertemu.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute! Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter le programme magazine culturel. Et ce soir, je vais vous présenter le plat de sayur asam. Chers amis, rawon a récemment été nommé la soupe la plus délicieuse d'Asie par Taste Atlas. Taste Atlas est un site culinaire de Croatie qui passe en revue divers aliments à travers le monde. Rawon attire l'attention car il a un goût délicieux et s'est traité avec une variété d'herbes et d'épices. Outre rawon, il y a aussi sayur asam qui est également inclus dans la version Taste Atlas de la meilleure liste de soupes. Ce plat se classe 12e. Cette édition de magazine culturel vous invite à découvrir le repas sayur asam. Chers amis, sayur asam est un plat typique d'Indonésie. En général, le sayur asam utilise des arachides, du jeune jacquier, du melinjo, du carambol végétal, de la caillotte, des haricots longs et du tamarine. Le maïs est également souvent ajouté à ce plat. Chaque région a également d'autres ajouts pour leur sayur asam. Il existe de nombreuses variantes locales de sayur asam, telles que sayur asam Jakarta ou sayur asam Betawi, sayur asam Kangkung, C'est une variante utilisant le chou frisé et le saiorasam de poisson salé. Il y a saiorasam Sumatra qui a une sauce plus trouble et huileuse. Il y a aussi saior Sunti d'Aceh. Ensuite, il y a le style javanais oriental du tamarin qui est connu pour avoir un goût épicé. Tandis que le saiorasam de la région de Java occidentale a tendance à avoir moins de contenu et une caractéristique importante est l'utilisation d'arachides pelés, pas les arachides et la peau comme dans le saiorasam Betawi. Chers amis, saiorasam a philosophie de décrire la diversité. Cela peut être vu à partir des différents contenus des légumes. Il y a des haricots longs, du maïs sucré, de la citrouille, des arachides, du melinjo, des aubergines, du jacquier, du maïs sucré, de feuilles de melinjo. Même si les légumes sont beaucoup utilisés, ils peuvent donner un goût unifié. Les saveurs qui sont créées sont salées et aigres. En outre, les légumes de tamarine vous rappellent également de ne pas être insouciant et patient. Et ce menu simple rappelle souvent la maison et la famille. Le goût des plats de légumes est aigre, aigre, doux et très rafraîchissant. Parfait lorsqu'il est combiné avec d'autres plats d'accompagnement comme le poisson frit, les légumes frais et la sauce chili. La façon de déguster le saiorasam varie également. À Java occidentale et à Betawi, Jakarta, ils apprécient généralement le saiorasam dans un bol, séparé avec du riz. Mais à l'est de Java, ils préfèrent mélanger le saiorasam du riz et des accompagnements. Bon, chers auditeurs, c'est tout le programme des magazines culturels.
Kita kan abadi selamanya.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à tous, maintenant c'est le temps pour le programme L'Indonésie en couleur. Et ce soir, je vais vous présenter Putri Indonesia fait la promotion du batik Pamekasan lors de l'événement Miss Universe 2021. Chers amis, le gouvernement de la région de Pamekasan dans l'Est de Java profite du concours mondial de la beauté Miss Universe 2021 pour promouvoir le batik artisanal de la communauté Pamekasan. Le batik écrit Pamekasan sera porté par Putri Indonesia 2020 lors de l'événement. Le batik écrit qui sera utilisé par Putri Indonesia est le batik fabriqué à la main par les habitants du village de Toket, Propo Pamekasan, qui est connu par la communauté Pamekasan sous le nom de batik Toket. Chers amis, Putri Indonesia Ayu Maulida était intéressée par l'utilisation du batik Pamekasan dans le concours de beauté pour les femmes de différents pays du monde. Après avoir connu de première main la qualité et la beauté du batik Pamekasan, il a considéré que Pamekasan a un potentiel de batik extraordinaire et que sa qualité n'est pas inférieure à celle du batik manuscrit d'autres régions d'Indonésie. Il a dit qu'il avait un grand devoir et une grande responsabilité dans la préservation de la recherche de l'Indonésie, l'Indo et le batik Pamekasan, afin qu'il puisse inspirer les femmes en Indonésie et être connu dans le monde entier. Chers amis, Ayu Maulida, en plus de présenter le batik Pamekasan spécifiquement sur la scène internationale, apportera également des souvenirs de Java oriental qui seront distribués aux filles de 90 pays du monde entier présentes à la recherche de la plus belle reine de l'univers le 16 mai 2021. Jusqu'à présent, a déclaré Badrout, le batik Pamekasan a en effet été fourni à des pays étrangers, tels que la Malaisie, le Brunei Darussalam et plusieurs d'autres pays d'Asie. Bon, chers auditeurs, c'est tout le programme Indonésie en couleur.
Bukan salahmu bila diriku tak tahu bagaimana caranya mencintai. Bukannya aku tak cinta kamu, tak menyayangimu dengan sepenuh hatiku, oh cintaku. Biarkanlah cinta tumbuh dengan sendirinya dan mengajarkanku bijaksana dalam memaknai dan memahami. Oh bersabarlah hingga tiba di suatu masa aku bisa jadi yang terbaik dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu. Ini salahku, kekuranganku yang mencintaimu dengan cara yang berbeda. Dapatkah kamu merasakannya? Bahwa hatiku ini milik kamu seorang, milikmu sayang. Biarkanlah cinta tumbuh dengan sendirinya dan mengajarkanku bijaksana dalam memaknai dan memahami. Oh, bersabarlah hingga tiba di suatu masa aku bisa jadi yang terbaik dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu.
Duhai sayangku, tiada cinta seindah cinta, cinta yang tulus, yang mengajarkan bijaksana dalam memaknai hati hidup ini.
Oh, biarkanlah cinta tumbuh dengan sendirinya dan mengajarkanku bijaksana dalam memaknai dan memahami. Oh, bersabarlah hingga tiba di suatu masa aku bisa jadi. Semoga kamu memaafkanku, menerima segala kekuranganku. Semoga Tuhan memberi waktu bagiku untuk membalas kasih sayangmu.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et vous êtes avec moi Audrey. Maintenant, je vais vous présenter le magazine musical. Cette fois, vous allez écouter une chanson des Karungut modernes de la région du Kalimantan central intitulée Turus Janji. Cher ami, cette chanson raconte la promesse d'un couple d'amoureux qui navigueront ensemble dans un lien de mariage. La chanson a été réarrangée avec le genre de musique pop sans perdre ses éléments traditionnels, tout en incorporant un instrument de musique traditionnelle du Kalimantan central appelé la harpe. Ceci est fait pour que la musique sonne plus légère et soit facilement comprise par l'auditeur. Karungut lui-même est un art traditionnel du Kalimantan central en Indonésie, sous la forme de littérature orale ou également appelée pantun antoné. Le chant Karungut raconte les poèmes de la vertu en concoctant divers légendes, avertissements, réprimandes et avertissements sur la vie quotidienne. Bon, chers auditeurs, voici la chanson intitulée Turus Janji, chantée par Ujai Mura et Yeti. Bonne écoute. Thank you. Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.